Radio-Télévision Suisse.
RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone, l'émission culturelle internationale. On vous emmène sur les mers du monde aujourd'hui, au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et dans un monde terrifiant peuplé d'humains monstrueux. C'est le grand retour de Philippe Claudel en librairie. L'auteur et réalisateur, membre de l'Académie Goncourt, publie un roman peuplé de personnages et de réflexions absolument affreux, indignes, inhumains. Un livre qui va faire réagir nos libraires. Vous allez trembler d'effroi avec nous. Place à la poésie ensuite pour compenser et s'apaiser. Nous serons avec la chanteuse franco-marocaine Safo, accompagnée de ses musiciens, et avec l'auteur ivoirienne Tanela Boni. Nous allons vous faire vivre la poésie en musique avec une expérience radiophonique autour de ces quatre artistes. Et puis nous recevrons Jean Lemire depuis nos studios de Montréal, explorateur et scientifique canadien. Il publie un livre extraordinaire réalisé autour des mers du globe, un ouvrage essentiel qui alerte le monde. Et puis vous entendrez des baleines et des phoques tout à l'heure.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie. Aujourd'hui, on accueille un libraire de Dakar, au Sénégal. Bonjour à Ronalo.
Bonjour.
Vous êtes dans la librairie Claire Afrique. C'est, paraît-il, Arona, la plus ancienne librairie du Sénégal ?
Exactement. Donc, en fait, c'est la librairie la plus ancienne du Sénégal. Et aujourd'hui, de 66 ans.
66 ans, voilà. Donc, une librairie généraliste.
C'est la librairie qui appartient à l'archidiocèse de Dakar.
Voilà, cette association, et qui surtout vend tout type de livres, hein, pour les universitaires, pour le grand public, voilà, c'est très varié, et c'est une librairie très importante au Sénégal. On est ravis de vous avoir aujourd'hui en duplex avec une liaison un petit peu difficile, mais c'est la distance, c'est normal. Dominique Bressou est libraire en Suisse à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien.
Très bien. Le jeune et impertinent Jérémy Laniel représente, lui, le Canada. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire Rosemère dans la librairie Carcajou. Vous avez une grosse voix car le printemps arrive et je suppose que ça vous réjouit.
Exactement.
Et c'est encore Déborah Damblon, dites donc, qui est avec nous pour la Belgique cette semaine, qui se remet tout doucement de ses échanges avec Lynn Renaud la semaine dernière. Elle était bouleversée. Bonjour Déborah.
Exactement Emmanuel, c'est toujours moi. Je suis redebout.
Redebout, vous pouvez bien sûr réécouter cette émission en podcast hein, si vous l'avez ratée. Bonjour Safo.
Bonjour. Je voulais juste dire que j'étais venue en tant que poète aujourd'hui, pas en tant que chanteuse.
Oui, je sais, mais le grand public vous connaît en tant que chanteuse. Oui. Et évidemment, nous allons parler poésie tout à l'heure, puisque nous allons vivre une vraie expérience radiophonique avec vous, avec vos musiciens qui sont installés là, juste derrière, dans ce grand studio, et avec Tanela Boni aussi, qui est juste à côté là. On commence toujours cette émission avec une anecdote, une histoire personnelle racontée par l'un de nos invités. Vous avez carte blanche, et je découvre en même temps que tout le monde, que voulez-vous transmettre, Safo ?
Alors l'anecdote, une des nombreuses anecdotes frappeuses qui me soit arrivée, je suis tombée de scène, c'était dans les années 80, 87, ouais. Je suis tombée de scène à la fin du concert dans la fosse d'orchestre, la scène était en pente, j'ai glissé sur une écharpe, mmh. Et je suis tombée de 2,50 m, donc les gens, mon pauvre régisseur a cru que j'avais passé, parce que j'avais une espèce de petit truc sanguinolent sur le front,
ah
en
oui,
fait
quand même, ouais.
Ce n'était qu'une épingle à cheveux qui était tombée dans mon cuir chevelu, ouais. Mais je m'étais quand même cassé le sacrum, l'aile sacro-iliaque, etc., et tout d'un coup, je sens l'air du dehors et des gens qui applaudissent dehors et je me dis c'est pas raccord. Et là, en fait, on me trimballe, j'ouvre les yeux et je vois cubiste. Et je me dis mince, moi qui aime bien dessiner en cubiste, comment je vais faire si je vois déjà cubiste?
et vous étiez où en fait?
J'étais à Rochefort-sur-Mer.
Ouais.
Et en fait, bon, donc effectivement, je m'étais fracassée. Et, et là, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette aventure, c'est que j'aurais pu en mourir. Finalement, la mort, c'était rien dans ces conditions. C'est une extinction des feux, tac.
Ouais. Vous étiez en extérieur?
Non, j'étais à l'intérieur.
Mais comment ça se fait que vous avez senti l'air du...
Parce qu'on m'a... j'ai perdu connaissance.
Ah,
on
d'accord.
On m'a mis sur une civière.
Ah, ambulance et tout, ouais.
Ambulance et à hôpital.
Ah, oui.
Et j'étais très furieuse parce que j'avais pour une fois une superbe chambre et il fallait que je dorme à l'hôpital. J'étais fumasse. Bref. Voilà.
Alors, les aléas des artistes, ça arrive. Bon, vous n'êtes pas jeté dans la foule comme ça, comme font les rockstars, non?
Ben non, j'ai bêtement dans la fosse d'orchestre, ça m'a fait plus mal.
Safo est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Philippe Claudel.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être fidèle à la librairie francophone.
Merci de m'inviter.
Votre nouveau roman est sorti là, en cette fin de semaine. Il est en librairie ce week-end. Vous tentez la provocation avec une succession de contes philosophiques et absurdes. Vos personnages disent des choses horribles. Prenons un exemple, continuons avec les histoires. Racontez-nous le parc à pauvres, Philippe.
Ah bah parce que bon, le vrai problème de nos sociétés, c'est que fait-on des pauvres, quoi. C'est un vrai problème. Et comme on peut pas éradiquer la pauvreté, eh bien dans ce roman, à un moment, le narrateur, qui est un peu désœuvré en vacances avec son comité d'entreprise, visite ces fameux parcs à pauvres, parce que le gouvernement a trouvé la solution. Il suffit de parquer les pauvres un peu loin, à distance, on les voit moins, ils sont entre eux, ils font pas de bruit, on leur jette un petit peu à manger et on est tranquille.
Comme dans un zoo.
Oui, mais le zoo, on y est, on est en plein dedans. C'est ce qui m'a d'ailleurs inspiré ce livre.
Vous écrivez « On a parqué les pauvres, c'est bien mieux. Ça ne pouvait plus durer. Les pauvres ont été rassemblés dans des stades afin de ne pas les traumatiser. Ce sont des lieux qu'ils connaissent bien, qu'ils affectionnent et qu'ils remplissent souvent pour assister à des matchs de football. » Et un peu plus loin, le pauvre est oisif, c'est pour cela d'ailleurs qu'il est pauvre.
Bien sûr, hein, c'est souvent ce qu'on entend d'ailleurs. Hein, regardez.
Que vous arrive-t-il, Philippe Claudel ?
Quand on voit beaucoup de malheureux dans la rue qui dorment dehors, on entend des discours qui nous disent « bah oui, mais s'ils font ça, c'est qu'ils le veulent bien ».
Vous l'avez entendu ça ?
Bon, écoutez, vous ne l'entendez pas, vous, Emmanuel. Hein, ils ne sont pas assez courageux, ils ne travaillent pas, etc. De même qu'à un moment dans le livre, on va voir les migrants aussi qui se noient. Hein, donc ça devient une attraction, on tourne en bateau autour et puis on voit les bateaux couler.
Ouais, c'est-à-dire au lieu d'aller à la pêche au thon, comme ça se pratique en Méditerranée,
absolument.
On va à la pêche aux migrants, dans votre livre.
On va à la pêche aux migrants.
On les regarde se noyer.
On les regarde se noyer, on parie sur le temps de noyade. De même que démographiquement, les vieux sont un problème. Donc il y a des solutions aussi qui sont proposées par le narrateur et ses amis dans le livre. Hein. Que fait-on de nos vieux, franchement ?
C'est atroce, Philippe Claudel.
C'est atroce, oui.
Comment alors... avez-vous fait pour écrire ça ? Sans le penser.
C'est une partie de moi-même.
Si vous ne le pensez pas.
Je regarde le monde, comme tout le monde, je crois. Et quand on essaye d'avoir une dimension artistique dans sa pratique, on essaye de transférer ça. Face à cette atrocité qui est devenue notre société, il y a deux solutions. Soit on pleure, soit on rit. Là, j'ai décidé d'en rire. D'en rire jaune, d'en rire noir, de faire rire, d'un peu réveiller par le rire. Là, c'est une satire, c'est du burlesque, c'est de l'énorme.
C'est ça. On va donner la parole à un libraire, on va commencer par un premier libraire. Ils sont un peu bouleversés, hein, les libraires. Dominique Bressoux.
C'est un livre forcément qu'il va partager.
Ah oui, ça. On va voir la suite, hein, vous verrez. Dominique Bressoux pour la Suisse, donc vous êtes vous aussi un peu perturbé.
Perturbée, oui. Je sens que je vais encore passer pour une mère la pudeur, mais tant pis. La complaisance dans l'étalage des turpitudes des personnages m'a donné tout simplement mal au cœur, au sens propre comme au sens figuré. Bon, et pour être tout à fait franche, j'ai quand même explosé de rire plusieurs fois, par exemple avec l'épisode des poissons suceurs du jacuzzi.
Tiens, bah c'est bien ça. Merci Dominique. Parlons des poissons suceurs, Philippe Claudel.
Ah, je crois qu'on est tous passés devant ces salons de massage en France ou à l'étranger, où on peut se faire manger ces petites peaux mortes des doigts de pied avec de multiples poissons.
Sauf qu'il ne s'agit pas de ça là. Attention à l'heure de... Vous savez qu'on est diffusé dans le monde entier à des heures très
exposées. Je suis un homme qui sait parler, Emmanuel, ne vous en faites pas. Non, bon, il ne s'agit pas de peaux mortes, il ne s'agit pas d'orteils. Voilà, n'en disons pas plus.
Non, non, disons
mais
pas
les poissons
plus.
Peuvent être utiles à autre chose. Nos amis les bêtes.
Vous avez testé apparemment.
Non, pas du tout.
On va écouter la BO du roman, Philippe Claudel. On vous a demandé de choisir une musique qui pourrait accompagner votre livre comme au cinéma.
Difficile.
Ça
difficile.
Tombe bien parce que vous êtes aussi cinéaste et réalisateur. Vous avez choisi le luxembourgeois Camillo Felgen et les Sex Pistols. Vous préférez qu'on écoute quoi, là ?
Écoutez, alors, entre Anarchy in the UK des Sex Pistols, qui est un morceau de ma jeunesse, hein, qui justement fait péter le monde jusqu'à son extrémité.
On écoute quoi ? Vous expliquez après.
Alors, commençons par les Pistols.
Non, c'est pas commençons, on choisit.
Ah, on choisit, pardon. Alors, bon, bah, j'ai parlé des Pistols, de ce morceau punk qui dévaste tout. Parlons plutôt alors de Camillo.
Ils sont ravis en régie. Allons-y, Camillo.
Nachts geh ich dahin. Ich bin allein. Und frag warum. Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn. Und ich frag mich, warum? Du gingst fort, wohin? Ich rief dich oft, doch du bliebst stumm.
Camillo Felgen.
N'arrivez pas à l'entendre en entier, hein, c'est ça.
Non, c'est un extrait, c'est présenté comme un extrait. Okay.
Non, mais alors pourquoi,
ce titre?
Mais parce qu'à un moment, il y a un chapitre dans le livre où un collègue du narrateur se marie avec une ours.
Oui.
Donc il y a tout le mariage qui est décrit, puisque de plus en plus les mariages mixtes se multiplient. Donc il y a cette description de ce mariage, et à un moment, la femme du narrateur danse avec un ours qui est extrêmement bien élevé, et il danse une danse lascive, rien ne se passe, mais j'imaginais justement sur un slow langoureux voir cette femme du narrateur avec un ours très bien élevé, très poli, dansant. Ouais. Et c'est vrai que Camillo, quand même, c'est une voix exceptionnelle. C'est pas un Allemand, c'est un Luxembourgeois.
C'est un Luxembourgeois, hein, exactement.
On l'oublie. Et grâce à lui, il m'a valu quand même quelques conquêtes sur ce slow d'enfer.
Ah,
bah, évidemment, quand même, on peut pas rester insensible sur Varum.
Ah, bah, ça dépend, ouais. Je suis pas sûr que ça marche avec nous, le slow. Zach Varum, ça veut dire
pourquoi.
Les jours passent, je suis seul. Pourquoi? C'est une vraie question.
Ça marche avec votre livre aussi. Pourquoi?
Oui, ça faut raison.
Oui, ça marche avec beaucoup de choses, en fait.
Alors, le mariage, vous en parlez, effectivement, le mariage pour tous, il en est question. C'est parfaitement bien introduit, Philippe Claudel, parce que, du coup, vous montrez, avec cette histoire où un homme se marie avec un ours, que finalement, puisque tout le monde peut se marier avec tout le monde, entre hommes, entre femmes, pourquoi pas avec des animaux. Il y en a qui ont dit ça, hein, dans
exactement,
les rangs.
J'attendais que vous ayez terminé, Emmanuel. Il y a un ecclésiastique de très haut rang en France qui était contre le mariage pour tous et qui a dit, si on autorise ça, un jour, on va autoriser le mariage avec des bêtes.
Voilà.
Oui. Donc ça fait tilt dans mon esprit et ça donnait... Si vous voulez, dans ce livre, je n'ai fait que prendre des situations réelles et pousser le curseur un peu plus loin, de façon à ce que l'absurde nous dévoile un peu ce que nous sommes devenus. Mmh. Tout ce qui m'a inspiré, c'est notre monde. Et quand on le regarde avec des yeux, j'allais dire les yeux de persan, vous voyez, les persans de Montesquieu, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui nous observe. J'imaginais un regard d'une autre planète qui se pose sur nous. Que voit-il aujourd'hui? Il voit, me semble-t-il, des êtres qui sont en train d'abandonner leur humanité au profit d'une inhumanité qui les pousse dans ces travers que j'essaye de donner et dont je me moque.
Et y a-t-il un danger, Philippe Claudel, à écrire des histoires racistes, antisémites et homophobes, comme vous le faites là?
Alors, je reprends le mot fameux qui est toujours vrai en ce qui concerne l'humour. Hein. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est ça la vraie discussion. Ouais. Les blagues juives sur l'Holocauste, il y en a plein. À partir du moment où elles sont dites par des juifs, ça passe. À partir du moment où elles sont dites par d'autres personnes, ça peut coincer.
Mais sauf que vous n'êtes pas humoriste, Philippe.
Vous êtes
écrivain. Donc vous posez sur la table la possibilité ou non de tout pouvoir écrire.
Franchement, oui. Oui. Là, je pense que quand même la littérature est un territoire de l'exploration et de la tolérance. Et j'espère avoir cette tolérance aussi dans le regard du lecteur, qui, compte tenu aussi de ce que je suis, de ce que j'ai écrit, pourra avoir la grille d'emploi et la grille de lecture de ce texte-là.
Très bien. On va voir avec les autres libraires, justement, Philippe Claudel. Ils l'ont lu, votre livre. On part tout de suite au Sénégal avec notre libraire de Dakar, Aaron Allo.
Oui, je vais commencer par féliciter l'auteur.
Merci.
Que nous faisons en tant qu'êtres humains et qui sont pourtant à la lisière de la condition humaine. Une certaine exagération reflète carrément une déviance de notre monde. En d'autres termes, il repose la question existentielle de l'être, de la justice, de la liberté, tout en utilisant en fait une écriture simple.
Alors effectivement, hein, l'exagération dont parle Arona, la barbarie, la déviance, une écriture simple. Disons un mot sur l'écriture.
Oui, justement, merci Emmanuel et merci Arona, j'allais rebondir là-dessus. Parce que volontairement, le livre s'est écrit dans une langue simple, voire pauvre. C'est-à-dire que j'ai raboté le langage au maximum. Ce qui est aussi, quand même, me semble-t-il aujourd'hui, un des travers de notre société. C'est-à-dire que notre langue s'appauvrit. Notre langue s'appauvrit parce qu'on l'utilise mal, peu. Et là, on aura l'occasion de reparler la poésie et le champ de l'expérimentation et l'utilisation magique de la langue. Mais dans la langue de tous les jours, et même dans la langue de la presse, le vocabulaire se restreint. Donc, il y avait aussi un effet miroir dans ce livre, d'utiliser une langue très simple, des phrases très brèves, très courtes, lapidaires, et une ponctuation de laquelle un signe est constamment absent du livre, c'est le point d'interrogation. Parce que, me semble-t-il, aujourd'hui, on ne se pose plus de questions.
Et alors vous faites des dialogues, hein, parce que vous écrivez des dialogues, mais finalement qui sont mêlés à la narration.
Oui, on ne sait plus à un moment qui parle, voilà.
C'est une vraie expérience littéraire, hein, ça.
Oui, enfin, modeste, hein, je ne suis pas non plus quelqu'un qui bouleverse les formes.
Non, mais c'est très réussi, hein, Philippe Claudel, parce que votre roman est dense et en même temps il est long à lire.
Oui, parce que c'est quand même une matière...
Votre roman est court, pardon, excusez-moi.
Je vous avais compris, Emmanuel.
Oui, mais bon,
les auditeurs aussi. On décode le Kéra, vous savez. Mais
Oui, non. Donc votre roman est court. Et voilà. Bon, bref, on a compris.
Ouais, non, mais c'est parce que je pense qu'il est, dense malgré moi, parce que la matière est dense. Cette matière humaine, inhumaine, elle est d'une densité forte. On est quand même un noyau dur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, me semble-t-il, il est en train de se fissionner, se fracturer, se fissurer. Il faudrait pas qu'il explose.
Quoi. Très bien. On va voir avec deux autres libraires qui ont lu votre livre, Philippe. Canada ou Belgique, on enchaîne avec qui?
Écoutez, allez, ordre alphabétique. Belgique.
Il fait des jeux. Belgique. Allons-y, Déborah Damblon.
Alors, monsieur Claudel, je voulais vous dire que moi, je vous ai lu un jour Gris et Maussade et vous avez fait ma journée, selon l'expression consacrée. Parce que je m'attendais pas du tout à lire des trucs pareils sous votre plume. Et ça m'a réjoui, ça m'a amusé, ça m'a enchanté, ça m'a fait sourire. Au point d'ailleurs que je me demande si vous n'avez pas quelque part, peut-être très loin, une ascendance belge pour manier comme ça avec brio ce réalisme magique absurdo-drôlo grinçant. Vous voyez, dans la lignée de nos grands auteurs, Owen, Steinberg.
Mais vous avez absolument raison. Alors vous savez sans doute que j'habite pas très loin de la Belgique, j'habite en Lorraine et j'ai un tropisme belge très très développé, en tout cas une empathie, et c'est une terre où je me sens très très bien et presque chez moi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup lu vos auteurs, je me nourris énormément de littérature belge et notamment de cet esprit de dérision qui caractérise davantage le peuple belge que le peuple français, on en manque. Mm-hmm. Donc vous avez tout à fait raison, c'est une des sources principales d'inspiration. Il y en a d'autres, mais c'en est une importante.
Il n'est pas belge mais québécois, Jérémy Lagnel.
Oui, je vais rebondir sur ce que vient de dire Déborah. On doit le dire d'emblée, Claudel surprend avec ce livre. Il y a dans ce livre une charge grossière, vulgaire, un grotesque maîtrisé, mais qui choque. Hein, dès la lecture des premiers textes, c'est pas sans déstabiliser le lecteur. Et surtout que j'étais un lecteur de Claudel quand même assez assidu. Ici, l'auteur décape avec pertinence, même si certains textes sont un peu moins forts que d'autres. Je préfère quand même son cynisme et son désaveu social dans des textes un peu plus fins comme l'enquête, mais faut pas bouder son plaisir.
Alors le plaisir à tout mesurer parce qu'il est question de choses absolument terribles. En bout, il est beaucoup question de sexe. Hein. Il y a une obsession pour le sexe d'ailleurs, Philippe.
Oui, absolument.
Ce qui allège un peu les choses, si je peux
me permettre. Non, mais attendez, on peut dire 10 secondes.
Oui.
Le sexe est devenu quand même, et le sexe, et non pas l'amour, hein, le sexe est devenu quand même une préoccupation contemporaine qui atteint des proportions gigantesques. Vous savez que le principal mot, les mots les principaux sur les moteurs de recherche tournent autour du sexe et de la pornographie. Comme si finalement notre principale occupation aujourd'hui était non pas de nous reproduire, non pas d'aimer, mais d'avoir une activité sexuelle. Ouais. Et ça, c'est terrible. Quand on y réfléchit, nous ne sommes plus des êtres, nous devenons des corps mécaniques, et c'est vrai que c'est traité souvent dans le livre.
Alors, la torture aussi, la violence avec le racisme, ce jeune arabe, comme vous le décrivez, à qui on coupe les doigts, on brûle sa voiture, puisque, je cite, les amis de monsieur font cela souvent pour se distraire.
Ils aiment la politesse, et soudain, ce jeune conducteur les double en leur faisant un doigt. Ils ne supportent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent le doigt avec une tenaille.
Plusieurs doigts.
Plusieurs doigts après, parce que bon, ils veulent des excuses, ils n'en donnent pas, c'est normal, puisqu'ils n'arrivent plus à parler, puisqu'ils lui ont déjà mis un coup de clé à molette dans la bouche.
C'est affreux, mais ça fouille.
C'est affreux,
Elle rit, mais c'est affreux. Une autre petite histoire. Allez, on va se détendre un peu, Philippe Claudel, parce que tout ce que vous dites, évidemment, bon, voilà, c'est un reflet de cette société, de façon exacerbée, c'est terrible. Mais il y a une autre petite histoire qui résonne dans l'actualité à plusieurs titres, avec ce président de la République qui regrette d'avoir été élu. Sa femme est partie, il n'a pas pu s'enrichir personnellement, les juges ne lui obéissent pas, et on l'insulte quand il est en déplacement. C'est un petit résumé de la politique française.
Et il ne rêve que d'une chose, c'est que quelqu'un dans un meeting ou dans la rue lui tire une balle dans la nuque.
Ouais.
Écoutez, c'est vrai que là, il y a toujours ce poncif qui dit que la réalité dépasse la fiction, mais je crois qu'on est vraiment au-delà. Alors ce texte, il a été inspiré effectivement de cette vie politique française, mais pas seulement française, depuis quelques mois, quelques années. On est atterré, et c'est vrai que la pornographie, elle est aussi là, ce qui fait dire dans ce chapitre du livre aux deux conjointes qui voient leur mari regarder le président, mais vous êtes dégueulasse, vous n'avez pas rien de mieux à faire que de regarder ces cochonneries à la télé.
Alors la solution pour régler tout ça, ce serait peut-être de vendre Dieu. Avec une annonce, vend Dieu, 2000 ans, état correct, prix à débattre.
Le problème, c'est que personne ne veut l'acheter.
Bon, en tout cas, voilà un livre, Philippe, qui va vous permettre de vous faire une foule d'amis chez les croyants, les immigrés, les homosexuels, les femmes, les pauvres.
J'avais décidé
même,
de ratisser large. Ouais.
Même les apprentis fachos et les partis xénophobes risquent de mal le prendre.
Bah oui, c'est ça,
c'est un assassinat culturel ou un suicide.
On sait plus. Oui, c'est beaucoup.
Merci Philippe Claudel, merci beaucoup.
Merci.
Votre nouveau roman Inhumaine est paru aux éditions Stock. Vous êtes inhumain, quelle déception. On vous aimait tant, Philippe. Vous aviez une sacrée cote de popularité pourtant, et paf, du jour au lendemain. On sait à quoi vous ressemblez. Ça me rappelle des gens. Allons-y, à suivre un moment poétique et musical. Vous allez y participer d'ailleurs. Avec sa... Pourquoi quelle horreur, ça faut.
Non, c'est la transition.
C'est l'enchaînement.
La transition est difficile.
Ah oui, faut enchaîner. C'est la vie, ça, ça faut.
Ouais,
après un affreux salaud, une très belle poétesse.
Exactement. Très bon enchaînement. Merci Philippe Claudel. Tanella Bonnier est aussi avec nous, l'auteure ivoirienne. Avant cela, voici un projet musical français initié par Gaëtan Roussel et Rachida Brakni. Écoutez, ça s'appelle L'Édisseur. Voici Le Temps passe dans la librairie francophone.
C'est comme si c'était hier, comme si l'endroit faisait l'envers, comme si les images s'arrêtaient et que les belles heures défilaient. C'est comme si c'était demain, comme si le soir venait le matin, comme si la grande roue tournait et que l'horloge s'enrayait. C'est comme si c'était le moment, comme si l'après pointait l'avant, comme si qui sera était et que la mécanique s'essoufflait. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini, comme si la mémoire servait l'oubli, comme si nos rêves souvenaient pas et que le réveil ne sonnait pas. C'est comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours, comme si le soleil vous détoit et que les étoiles ne brillaient pas. Passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite. Ne passons pas trop vite.
Avec Gaëtan Roussel et l'actrice Rachida Brakni, avec Le Temps passe sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires qui vous présentent les coups de gueule et les coups de cœur. Et on commence tout de suite avec Dominique Bressoux en Suisse. Coup de gueule ou coup de cœur, Dominique ?
Un coup de gueule sur la part de plus en plus restreinte des rayons histoire dans les librairies. Or, pour un peuple, c'est comme pour chacun d'entre nous, on ne peut pas préparer l'avenir si on n'a pas compris le passé. Et il faut bien le dire, il y a seulement quelques dates qui surnagent dans notre ignorance abyssale. Si je vous dis 1515, Emmanuel, qu'est-ce que vous me répondez ?
Marignan.
bravo. Mais vous savez sûrement pas que le traité de paix perpétuelle entre la France et la Suisse a été signé en 1516 à la suite de Marignan.
Ouais.
Alors, si ça vous intéresse, il y a Suisse et France, 500 ans de paix perpétuelle,
ouais,
de Miège et Tornard, aux éditions Cavedita.
Et vous militez pour les livres d'histoire. Donc, après Jérémy Laniel, la semaine dernière, qui a poussé un coup de gueule sur la poésie dont on parle pas assez dans les médias, ça tombe bien d'ailleurs cette semaine, maintenant c'est les livres d'histoire. Très bien. Jérémy, tiens, justement, coup de gueule, ou je suppose, ou...
Même pas coup de cœur cette fois, Emmanuel.
Oh, miracle!
Miracle. Rien de moins. Coup de cœur jeunesse pour un roman de Patrick Isabelle. Camille publie chez Le Mec Éditeur. C'est un livre qui roule sa bosse depuis quand même un certain temps. Il a été nommé sur absolument tous les grands prix de la littérature jeunesse et il vient tout juste de rafler le prix des libraires du Québec cette semaine. C'est un deuxième prix des libraires pour son auteur en 3 ans. C'est l'histoire d'une jeune fille qui grandit dans un climat de violence familiale. Elle va quitter sa maison avec sa mère pour s'exiler en Acadie et fuir son père. Jamais il ne prend son lecteur pour un imbécile, il ne protège personne du réel, et je crois que c'est pour cette raison que les lecteurs le lui rendent si bien.
Patrick Isabelle aux éditions Le Méac. Merci Jérémy.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Sapho et Tanella Bonny sont dans la librairie francophone pour une performance musicale et poétique. En France, le mois de mars est le mois du printemps des poètes. Printemps des poètes qui commence ce week-end avec des opérations un peu partout autour de la poésie francophone. Bonjour Tanella Bonny.
Bonjour.
Vous êtes l'une des grandes voix de la littérature africaine. Vous venez de publier un recueil de poèmes sublime, Là où il fait si clair en moi, paru aux éditions Bruno Doucet. Beaucoup de sujets importants sont abordés. Il est plus facile de parler de racisme, de terrorisme, comme vous le faites d'ailleurs, avec la poésie?
Ce n'est pas du tout facile parce que généralement on ne s'attend pas à ce qu'on aborde ce genre de sujet en poésie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne peut pas aborder? Ça fait partie de l'humain. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'humain? C'est le sujet fondamental. Alors l'humain, comment il vit? Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il a encore des valeurs? Et ce sont des questions très importantes.
Ouais. Vous écrivez « Je traverse un pays sensible. À la couleur de la peau, j'ai l'impression de vivre au 19e siècle. » Et un peu plus loin, il y a de quoi perdre le Nord, en ce bas monde où les bavures se répètent à tout vent.
Oui, je suis très souvent allée aux États-Unis et je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas ?» ou « Que vont devenir, par exemple, les Noirs, les Latinos ?» Non, il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Tout se passe comme si, quand on voit quelqu'un là-bas, par exemple dans la rue, il suffit qu'il soit d'une certaine couleur, entre guillemets, et bon, peut-être qu'il porte le mal sur la peau, c'est un peu ça.
Sapho, la couleur de la peau, il en est aussi question dans votre recueil blanc paru chez Bruno Doucet. Vous, la franco-marocaine juive, vous avez souffert de vos origines?
Pas tant que ça, mais c'est vrai que j'étais trop juive pour être marocaine, trop marocaine pour être française, ça a toujours été compliqué. Ouais. J'ai toujours été dans cet entre-deux.
J'en avais souvent parlé d'ailleurs.
Oui, ouais. Mais je l'ai vécu comme une espèce de possibilité d'être à la lisière et justement d'être chez soi partout, si on est chez soi nulle part.
Et pourquoi le blanc vous a-t-il inspiré comme ça tout un recueil de poèmes?
Parce que, par exemple, j'ai fait un livre qui s'appelait « Beaucoup autour de rien ». Là, le blanc, c'est pas si éloigné, c'est-à-dire c'était cet endroit pseudo-originel, mais qui n'existe pas. À l'origine, ça n'existe pas. Mais c'est peut-être la poésie peut peut-être aller là où les mots sont insuffisants, donc les mots du quotidien.
Alors justement, vous allez nous en lire un premier extrait en musique. Vous êtes installé dans ce studio, ici même, avec vos musiciens. Une performance musicale et poétique de Sapho dans la librairie francophone.
Il y a derrière moi des gens pastels qui parlent de leur culture. Pastels parce qu'ils sont presque blancs, mais ils l'ignorent et ils plongent timidement dans la couleur. Ils veulent vivre intensément. J'ai charrié des fleuves de couleurs, j'en ai une franche indigestion. J'ai essayé la nuit, le noir, les demi-lunes, les lueurs, les fragments, les teints. J'ai essayé l'ombre. Big Bang est-il blanc? On le figure feu. Blanc est associé à un au-delà, un par-delà, un méta-état. «
Qu'est-ce que c'est un méta-état, Sapho ?
Alors justement, c'est un endroit extrêmement mystérieux. Ça pose milliards de questions. Ouais, ouais. Parce que quand la question de l'être, de l'ontologie, c'est complètement fou, si vous voulez. Où sommes-nous ? Est-ce que nous sommes dans une coque où il y aurait rien et nous dans la coque ? Ça n'est pas possible. Donc il y a toute cette interrogation impossible à entourer, mais peut-être par la poésie, on essaie de l'approcher, de mettre une petite lumière ouais. là-dedans.
Et c'est vrai qu'il est question du Sud aussi dans ces poèmes. Oui. Le Sud, c'est important pour vous, la femme du Sud. Oui. Les hommes et femmes du Sud, quelles sont leurs particularités ? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les gens du Nord, comme on dit, les gens du Sud ?
Bon, je dis ça, mais bien entendu, on sait que tout ça est précaire, mais dans mon imaginaire, les gens du Sud improvisent, vont être dans une sorte d'hystérie, alors que du côté de l'Europe, on va être plus carré, plus prévoyant, plus obsessionnel, disons.
Alors allons-y justement sur le Sud, avec un autre poème en musique, ici avec Sapho dans la librairie francophone et ses musiciens.
À l'instant où ce n'est pas dit, c'est encore trop de dit. Et je viens du Sud. Là, nous avons la paume remplie. Là, dans le Sud, les mots s'étourdissent de ce que la paume s'ouvre sans dire, diriger son dire, sans guêpe hallucinée. Non, avec le souci de cette incertitude. La certitude ne nous est rien dans le Sud. Certainty is the note of death. Certainty is the note of death. La certitude est la note de la mort.
Et puis au sud, il y a le Maroc et Marrakech. Marrakech, là où vous êtes née, Sapho.
Oui.
Et qui a fait l'objet d'un autre poème.
Je reviens au silence de cette page inquiète des signes à venir. Sur terre troublée, arasée, un désert peuplé de possibles. Voile de sable, touareg marchand de sable et marchand de vent. Rien à vendre, tout de même venu sous les remparts de Marrakech rouge, à jamais scellé comme une médaille au cœur de cet enfant à la jupe froissée. Have you seen the walls? Have you seen the walls? Premiers mots anglais, etc.
Etc. Philippe Claudel, vous pouvez réagir, applaudir si vous voulez d'ailleurs.
Applaudir des deux mains.
Oui, vraiment.
Et de tout mon cœur et de toute mon âme. La poésie, par essence, c'est quelque chose qu'on lit. Et sur ce blanc, me revenait un très beau mot de Rimbaud que vous connaissez sans doute. Rien que du blanc à songer.
Voilà.
Ça, c'est une expression qui est très belle et c'est vrai que ce blanc est inspirant, c'est le blanc de la page à écrire, c'est aussi le blanc de la pensée à remplir.
Une expérience radiophonique rendue possible grâce à vous, Sapho, mais aussi à Ingrid Ficheux à la guitare et Vincent Thierryon au clavier.
À la machine.
À la machine, je savais pas comment. Machine, ordinateur, clavier.
À l'ordinateur.
Bon, parfait. Merci beaucoup, Sapho. Tanée Labonnie, vous écrivez, vous, dans votre recueil, « Chaque humain est sentinelle de sa dignité. C'est ma dignité qui parle en moi ». Qu'est-ce que c'est la dignité pour vous, Tanella ?
Oui, tout à l'heure, je parlais de l'humain, parce que pour moi, c'est le plus important aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que l'humain sans sa dignité ? La dignité, c'est quoi ? La dignité, c'est ce que je suis tous les jours. C'est ce que je mange, c'est ce que je bois, c'est ce que je fais. Et la dignité, c'est aussi mon pays. Voilà pourquoi la dignité, c'est ce qu'on ne peut jamais enlever à quelqu'un.
On va donner la parole à Jérémy Laniel, qui est au Canada, qui est un grand militant pour la poésie. Jérémy, que pensez-vous de ce recueil de Tanée Labonnie ?
Même si le discours sur l'autre et sur soi devance parfois le projet poétique, on sent tellement une réelle proximité entre le texte et son auteur qu'on pardonne beaucoup de choses. On glisse avec elle, grâce à elle, dans cette poésie libre de tout carcan structurel. C'est un recueil d'une grande beauté.
Voilà, la vie du Canada, Tanella Boni.
Mais merci.
Ok, ravi. En Afrique, la tradition orale, la tradition des contes et des poèmes permettent d'exprimer beaucoup de choses en public. On révèle comme ça ses pensées, ses états d'âme dans une forme de pudeur, mais on les communique quand même. Est-ce que c'est ça qui manque à ce monde, Tanella, communiquer notre humanité?
Mais disons que c'est un monde où soit on est silencieux, soit on parle trop. Et je pense qu'on devrait peut-être suivre la voie de la poésie. La poésie n'est pas bavarde, elle va à l'essentiel, en peu de mots. Et je pense que c'est peut-être cela qui manque à notre monde aujourd'hui. Ce monde d'incertitude, ce monde où on ne sait pas où on va, on ne sait même pas de quoi demain sera fait. Et il me semble que si on suivait un peu la voie de la poésie, on pourrait justement essayer de poursuivre son chemin. Je ne dis pas de trouver où est le chemin, mais au moins d'être soi-même en chemin. Je pense que c'est le plus important.
On va terminer en douceur. On va continuer comme ça dans la poésie pour conclure avec un poème de Tanella Boni que vous avez accepté de lire en musique, donc à quatre finalement avec Philippe Claudel, Sappho, les musiciens de Sappho. Et voici donc un extrait. C'est le son du monde de la semaine en direct devant vous depuis le studio 621 de la Maison de Radio France.
L'injustice est dans l'air du temps, dans les ruelles du monde. Ma peau de femme le sait, mes pas qui viennent de si loin butent contre les frontières de l'égalité, jamais égales à elle-même. Les conditions de vie oubliées au bas de l'escalier, le discours si mélodieux, qui ouvre les yeux autour de moi, l'humain exclu des merveilles de l'humanité.
Qui prend la peine de regarder la beauté des étoiles, le marcheur à pied en pleine nuit? Je découvre la vérité du monde, inégale, fissurée, fêlée, lézardée, le monde que je n'ai jamais imaginé à mes risques et périls, ni plus beau ni plus laid, j'aurais eu si peu de choses à dire. J'aurais écrit des poèmes d'amour pour chanter la joie de vivre.
Mais merci.
Merci à Ingrid Ficheux et à Vincent Thierion.
Exactement, merci à vous. Blanc est publié aux éditions Bruno Doucet, Sappho. Et évidemment celui de Tanella Boni, Là où il fait si clair en moi, chez le même éditeur. Et le printemps des poètes, c'est tout le mois de mars. Merci beaucoup, merci à vous. Magnifique expérience radiophonique. Merci Philippe Claudel.
Merci.
On va vous libérer
vous,
parce que vous avez
merci
un train.
À tout le monde. Oui, mais j'ai toujours des trains, mais les trains, pas de problème.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Déborah Damblon pour la Belgique, coup de gueule ou coup de cœur, vous?
Eh ben, beau joli coup de cœur, Emmanuel, pour Espace Nord. Espace Nord, c'est notre collection de poches patrimoniales qui rend accessible la lecture de tas de titres de nos auteurs nationaux. D'ailleurs, Monsieur Claudel en a lu sûrement tout plein. Et ça leur permet, d'une part, pour certains, de ne pas sombrer dans l'oubli. Et puis aussi, pour d'autres, de vivre une nouvelle jeunesse. Comme par exemple, le grand menu de Corinne Hoox qui vient de sortir.
Très bien, la collection Espace Nord qui publie des livres de poche donc accessibles à tous. Merci Déborah. Nous serons à la Foire du Livre de Bruxelles d'ailleurs justement, mais aussi en déambulation dans la ville pour une émission spéciale la semaine prochaine. Vous pourrez nous croiser aux alentours de 15h, jeudi sur le plateau de la RTBF, mais aussi dans des lieux prestigieux sous la forme de happening avec des invités, là aussi expérience. Et nous serons notamment dans les coulisses du Parlement européen. La librairie francophone avec Philippe Claudel, Sappho, Tanella Boni et Jean Lemire qui est dans nos studios de Montréal. Bonjour Jean Lemire.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, nous allons parler avec vous d'écologie. Nous allons voyager vers les mers du Sud, les mers du Nord aussi avec vous. Quelle est l'urgence aujourd'hui?
Je pense que l'urgence, elle se situe en fait dans tous les pays. Et j'exprime à travers ce livre peut-être une crainte que j'ai ressentie. Vous savez, quand on regarde la situation environnementale, on doit le dire, il faut agir rapidement. Et j'ai souvent l'impression que nous, les gens des pays riches, avons peut-être l'excuse de ce que je dirais s'acheter une bonne conscience. Mmh. Alors que quand on a voyagé un peu à travers le monde, on se rend bien compte que les priorités sont peut-être ailleurs. Et après ce tour du monde, j'avais cette impression d'urgence de communiquer ce sentiment très très fort que j'ai pu sentir avec l'équipage là, un peu partout où nous sommes allés.
Avec un voilier que vous avez utilisé pour parcourir les mers du globe, on va en parler dans un instant. Et voici le tube francophone de la semaine, interprété par Nathalie Dessay, Elena Noguera et Agnès Jaoui, qui reprennent un titre très connu, créé à l'origine par Carlos Jobim, mais qui a été chanté également par un grand artiste franco-grec, qui, selon vous, ça faut, je vous laisse deviner, tout le monde joue.
Pas une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie,
c'est le souffle du vent. Au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide, le néant.
C'est la pie qui jacasse, c'est la verse qui verse, des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars.
C'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent.
C'est la main qui se tend, c'est la bière qu'on lance.
C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine.
Un reste de racine, c'est un peu solitaire.
C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire.
Une écharpe d'un clou, c'est la fleur qui monte. C'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout.
Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste.
C'est du bois, c'est un jour.
C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée. C'est la boue,
un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon.
C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie.
C'est Noguera et Jaoui avec les eaux de Mars, titre très populaire du Brésilien Carlos Jobim et du chanteur
Georges Moustaki.
Tané Laboni, ça faut. Moustaki, c'était en 1969, figurez-vous.
Ouais.
Les eaux de Mars, bravo. Sur ici, Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Jean Lemire est dans la librairie francophone pour l'Odyssée des Illusions, paru aux éditions La Presse. Vous êtes un amoureux des baleines, Jean. Tout commence comme ça pour vous. Un jour, sur une plage, alors que vous avez 19 ans, vous voyez la mer sur la côte nord du golfe du Saint-Laurent au Québec. Et votre première aventure, c'est d'aller observer justement les baleines que l'on entend en ce moment derrière nous, au large, derrière, comme ça, le Saint-Laurent.
Je me laisse bercer par ce que vous entendez. Là, c'est un rorque à la bosse.
Oui.
Ce sont les mâles qui chantent, seulement en période de reproduction. Et c'est vraiment un des chants les plus évolués du monde animal. D'ailleurs, si vous prenez ce chant et que vous l'accélérez 13 fois, vous allez reconnaître le chant des oiseaux. Alors, c'est la même structure, c'est vraiment... C'est magnifique.
Alors, vous racontez dans ce livre sublime une histoire incroyable. Au large des côtes dominicaines, vous allez observer les baleines à bosse dans un lieu précis qui est censé être une pouponnière. Vous allez vérifier ça. L'attente est très longue et soudain, une mère avec son baleineau vont jouer avec vous sous le regard très vigilant du père.
Oui, en fait, on appelle ça un escorte. C'est un mâle qui surveille la femelle et son baleineau. Et ça a été une rencontre mémorable puisque elle a duré des heures et des heures. Et dans le regard d'une baleine, vous savez, quand vous êtes sous l'eau avec ces animaux, vous n'êtes rien, vraiment. Et vous avez la femelle qui pèse 40-45 tonnes qui s'approche de vous et vous regardez, vous êtes œil contre œil. C'est vraiment un moment bouleversant qui se fait tout en grâce et en douceur. Et c'est vraiment des moments qui deviennent des petits moments d'éternité qui s'incrustent dans la mémoire et qui sont là pour toujours.
Oui, parce que vous remontez sur le bateau à un moment, ça va durer 5 heures, hein, ce balai avec les baleines. Vous dans l'eau, vous remontez sur le bateau et elles reviennent vous chercher.
Exactement.
Elle vous demande finalement de replonger. Oui. C'est incroyable.
Oui, on avait fait quand même une bonne distance avec notre bateau pneumatique en se disant, bon, on a été privilégiés, il faut les laisser dans leur environnement. Non, elles sont revenues tout près de notre bateau et on sentait le signal de dire revenez, revenez. C'était trop amusant. Alors, on est retourné à l'eau et puis ça a été encore, on a poursuivi ce moment de grâce.
Alors, toute votre vie, Jean Lemire, vous allez parcourir les mers du globe pour faire des recherches, mais aussi constater les dégâts de l'homme sur la nature. Les continents de plastique en haute mer, l'extinction de certaines espèces, la pêche aux requins qui est une véritable boucherie. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de tout ce que vous avez vu?
En fait, si on ne change pas nos comportements rapidement, il y aura évidemment des victimes et elles seront nombreuses, à commencer par les humains, puisqu'on se rend bien compte que la pêche commerciale, par exemple, en ce moment, prend tellement de ressources que si rien n'est changé, d'ici 50, 75 ans, il n'y aura plus de pêche commerciale. Or, il y a plus d'un milliard d'humains qui dépendent du poisson comme apport protéinique essentiel. Donc, on est vraiment en train de se tirer dans le pied.
Avec les continents de plastique, qui font pour certains 3,5 millions de kilomètres carrés, que l'on appelle d'ailleurs le sixième continent, Daniel Pennac a fait un livre d'ailleurs sur le sujet, ce sont des soupes de plastique agglomérées qui se retrouvent dans nos assiettes. Vous dites que les poissons mangent ces plastiques, et finalement, on en mange aussi.
Exactement. Donc, c'est le retour du pendule, si on veut. Ben. Inévitablement, nous allons manger ce que nous rejetons. Et ça a été une expérience traumatisante de voir ces albatros sur l'île de Midway, au large d'Hawaï, rapporter 5 tonnes de plastique qu'ils servent en nourriture à leurs jeunes.
Ça
a été vraiment une expérience traumatisante.
On retrouve d'ailleurs dans le corps de ces albatros, dans l'estomac, des brosses à dents, toutes sortes de choses, c'est absolument terrible. Dominique Bressou est en Suisse, elle veut intervenir. Qu'avez-vous pensé de ce livre, Dominique?
Moi, je l'ai trouvé fabuleux. En fait, je suis passée sans cesse de l'angoisse devant les crimes commis sur la nature par les hommes à l'émerveillement presque enfantin devant l'incroyable splendeur de ce qui nous reste encore. Mais au-delà des images ramenées de ce périple au long cours, c'est aussi le voyage dans la propre humanité de Monsieur Lemire qui m'a beaucoup émue. Et je le dis à tous les libraires, il faut diffuser ce livre. Effectivement, il y a urgence.
Il y a urgence et vous êtes bouleversé, Jean Lemire, quand vous voyez les ours blancs affamés qui meurent sur des plages grises, dénuées de glace. Il faut savoir que les ours polaires mangent des phoques. Or, comme la banquise se morcelle, ils doivent nager pour trouver cette nourriture, ce qui finit par les épuiser. Alors, ils se rabattent sur des morses qui, eux, vivent en colonie sur les plages. Mais le morse attaque l'ours. C'est une proie très difficile.
Exactement. On a vu des combats vraiment féroces avec ours polaire contre morse. Et ce n'est pas toujours l'ours qui gagne, puisque les défenses du morse sont très, très puissantes. Et on le voit, la frontière de l'Arctique monte inexorablement vers le nord, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de spécialistes de la glace. On pense à l'ours polaire, aux morses, mais également aux oiseaux marins, qui sont condamnés. Il faut le dire, il y aura une perte de biodiversité dans l'Arctique qui sera incroyable. Mmh. Et ça va très, très vite.
Et avec le réchauffement climatique, évidemment, les phoques sont de moins en moins nombreux. On a retrouvé un moment avec vous et avec un phoque, justement, Jean Lemire, dans le documentaire Mission Antarctique, avec des bruits très impressionnants. Écoutez.
Ça, c'est notre meilleur voisin, le phoque de Weddell. C'est surtout un spécialiste, vraiment, des sons. Il y a une variété de sons incroyables. Si je l'approche un petit peu, là, il va faire un mouvement avec sa cage thoracique pour nous impressionner un peu. Puis ça va être suivi d'un sifflement.
Les phoques de l'Antarctique, Jean Lemire, oui, c'est incroyable.
Les phoques de Weddell, ils ont vraiment un répertoire formidable. Et durant la saison de reproduction, il faut comprendre que nous sommes demeurés 430 jours en Antarctique. Nous avons hiverné là-bas. Et donc, nous étions pris dans la glace, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Et quand ils se sont mis à chanter en période de reproduction, on trouvait ça fantastique, puisque la coque de notre bateau servait de caisse de résonance. Alors, au début, on trouvait ça fantastique de s'endormir vraiment avec ces sons merveilleux. Mais je peux vous dire qu'au bout d'une semaine ou deux, vous espérez avoir un volume pour pouvoir les faire taire, puisque là, vous souffrez d'insomnie, puisque c'est vraiment
c'est tout
toute
le temps.
La nuit durant. Ouais, c'est toujours. Alors, vraiment un répertoire formidable qui nous a touchés beaucoup, puisque c'était nos voisins.
Vous dénoncez aussi la barbarie de la chasse aux dauphins. On tue aussi les dauphins dans certaines régions du monde. La pêche au cyanure, complètement illégale et dévastatrice. Le génocide planifié des éléphants. Et vous écrivez, de quel droit acceptons-nous de demeurer impassibles et insensibles devant l'extinction planifiée de toutes ces espèces dont l'avenir ne dépend que de nous?
Absolument. Et c'est important de le comprendre que l'avenir dépend de nous, puisque nous encourageons quelque part, lorsque nous consommons par exemple de l'huile de palme, eh bien il faut être conscient que ce sont les éléphants, les rhinocéros, les orangs-outans qui sont les victimes premières de notre consommation ici. Il faut de plus en plus réaliser que notre façon de consommer dépend directement de l'avenir, en fait, de toutes ces espèces qui peinent à survivre. Et donc le partage devrait se faire dans un respect entre toutes les formes de vie.
Et puis tout repose aussi, vous le dites, sur une plus grande justice sociale. Ça commence par l'humain, ça. L'économie et l'écologie sont tributaires de ça. Si tout le monde était dans une justice sociale, on n'aurait peut-être pas ces problèmes-là.
Exactement, et c'est une conclusion qui m'a un peu surpris moi-même, puisque je ne m'attendais pas à parler d'économie, mais je pense que c'est inévitable. Vous savez, dans cette confrontation entre écologie et économie, il n'y aura ni gagnant ni perdant. Si nous ne changeons rien, je pense qu'il n'y aura que des victimes.
Le mot de la fin, c'est pour un libraire. Déborah Damblon est en Belgique. À vous de conclure, Déborah.
Eh bien, moi, je trouve qu'on devrait faire imprimer votre livre à des millions d'exemplaires et puis le distribuer à tous ceux qui ne respectent pas la planète. Et ça, on fait beaucoup. Parce qu'elle est si belle notre Terre, quand on la voit par vos yeux et quand on la lit sous vos mots qui sont si justes, je trouve, et qui touchent au but. Alors, merci, juste merci pour tous ces arguments que vous nous donnez et qu'on pourra mettre sous le nez, montrer, répéter à l'infini à ceux qui ont encore le culot ou l'inconscience de ne pas prendre la mesure de ce qui se passe.
Voilà, merci beaucoup Jean Lemire.
Merci à vous pour ces commentaires très touchants.
C'est un grand livre que vous avez publié, L'Odyssée des Illusions, qui est paru aux éditions La Presse. À bientôt Jean, continue le combat.
Merci.
La librairie francophone. Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone avec le tout nouveau titre en avant-première de la malienne Oumou Sangaré.
Yeah.
Jamou, un extrait du tout nouveau titre Doumou Sangaré en avant-première. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Fabrice Desmaz et Gaël Braouzek, Djoubaka la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France, Martine Béguin-Felé et Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, nous serons à la Foire du Livre de Bruxelles avec une émission réalisée pour la première fois dans plusieurs lieux de la ville. Une expérience à vivre avec nous autour de nombreux auteurs. Passez une bonne semaine et un bon week-end. Salut.